en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. C'est à une fête que nous vous convions aujourd'hui. Une fête rythmée dont le cœur bat à au moins 120 pulsations par minute. Une fête colorée aussi avec ses innovations sonores, ses jeux de lumière, son imaginaire, ses excès, ses codes et sa culture ou sa contre-culture qui depuis plus de 30 ans ont largement irrigué les autres arts et ont évolué au diapason de la société. Une fête construite à partir d'une révolution musicale née dans les années 80 à Détroit et Chicago aux États-Unis, celle de la musique électronique. Voilà ce que nous raconte l'exposition immersive dans laquelle nous allons donc plonger aujourd'hui. Jean-Yves Leloup, journaliste, enseignant, artiste sonore et DJ, en est le commissaire. L'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk, c'est à voir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août, et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Vous avez évidemment reconnu la fameuse messe pour le temps présent du compositeur français Pierre Henry, l'un des inventeurs de ce qu'on a appelé la musique concrète, avec un autre français, Pierre Schaeffer, deux chercheurs, deux visionnaires qui sont, comme d'autres musiciens, qui sont alliés à des ingénieurs pour travailler comme ça sur les nouveaux sons, les sons de demain, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que on peut dire que l'électro serait né dans un laboratoire ?
Oui, on pourrait le dire, en tout cas dans les laboratoires de recherche de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui naissent effectivement à partir de 1948 et qui se développent pendant une vingtaine d'années en France, mais aussi dans bien d'autres pays, notamment aussi au studio de la WDR, la radio, une des radios ouest allemandes à Cologne, mais aussi à la RAI. En Italie, à Milan. Mais
donc
aussi...
un mouvement de recherche mondiale. Comment est-ce qu'on peut le relier justement au sortir immédiat de l'après-guerre ? L'idée, c'est qu'il faut se méfier des hommes, donc on va se tourner un petit peu du côté de la machine ?
Non, je pense qu'il y a une volonté. Alors, il y a deux choses. Il y a une volonté de réinventer le monde et sa culture et sa musique après l'apocalypse, enfin après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette volonté très forte, notamment chez les Allemands, donc réinventer une autre esthétique, tout simplement, sur des ruines. Ça, c'est la première chose. Et puis, aussi, il y a un autre effet de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est que beaucoup des premiers instruments, même des premières machines qui sont utilisées dans ces studios de recherche, viennent de la recherche militaire ou sont détournés de leur usage militaire et vont être utilisés, notamment des oscillateurs ou des éléments qui ont pu servir à mesurer les fréquences ou l'électricité et qui vont être utilisés avant même qu'on invente des synthétiseurs. On va générer des sons électroniques à partir de cet outillage ou cette instrumentation militaire récupérée. Mais il faut dire qu'auparavant, depuis la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, on a assisté à la naissance d'une lutherie électronique, parfois, avec des instruments qui ont souvent été intégrés à des orchestres plus classiques, comme les ondes Martenot, par exemple, ou le thérémine, qui ont été des instruments pionniers, donc, dans la première partie du XXe siècle.
Alors, l'exposition commence avec un vrai côté vintage, hein, puisque vous présentez quelques-uns de ces instruments de musique anciens, quelques-unes de ces machines. Quelles sont les pièces les plus marquantes, celles qui auront peut-être la plus grande postérité?
Ah, alors écoutez, l'expo débute avec une rareté qui s'appelle la croix sonore.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais, avec une très belle et qui est une sorte de croix en or surmontée, une sorte de boule d'or surmontée d'une croix chrétienne, qui est en fait une sorte de thérémine, donc un instrument électronique, mais on l'a placé là. Il est très rare. Cet instrument date des années 30. Il a été conçu par Nikolai Oburov, qui était un compositeur russe mais résident en France. Et ça témoignait pour nous, en tout cas, d'une vision, d'une foi, d'une spiritualité dans la musique et son innovation. Mais par la suite, alors les instruments qui vont peut-être marquer, vous avez un instrument conçu par Telefunken, qui est le nom va me revenir. dans quelques secondes, un instrument allemand, un trottonium. Voilà, le trottonium, qui est un instrument des années 30. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un des premiers construits en série, donc par Telefunken dans les années 30, donc vous voyez, avant-guerre, et qui préfigure bien des futurs instruments. On ne peut pas encore tout à fait parler de synthétiseur, mais c'est un instrument électronique.
Alors c'est quoi d'ailleurs le principe du synthétiseur? Expliquez-nous en quelques mots, alors, de façon assez simple et
oui,
grand public.
Bien sûr. Alors,
évidemment,
vous savez, moi je suis pas luthier non plus. Alors l'électronique, déjà c'est simple, c'est la variation d'un courant électrique qui délivre une fréquence, et donc on s'est aperçu qu'en faisant varier l'intensité de ce courant, on pouvait moduler ou sculpter les fréquences et donc imiter parfois les sons d'autres instruments. Et dans la musique électronique, vous avez deux ambitions, deux philosophies. La première, ça serait l'imitation des instruments préexistants, c'est-à-dire que le synthétiseur va tenter d'imiter l'orgue, le piano, les cordes, parfois même les cuivres. Donc vous avez toute une série d'instruments comme ça qui sont des instruments d'imitation, et dont parfois l'imitation était un peu vague, mais c'est ça qui a plu aussi aux musiciens. Et puis l'autre versant, c'est la volonté de créer des sons inouïs au sens propre du terme, donc jamais entendus. Donc ça aussi, vous avez toute une série de synthétiseurs et d'instruments. Voilà, il y a cette double nature, reproduire.
Donc, l'imitation ou la création pure.
Voilà, c'est ça.
Alors le synthétiseur, évidemment, c'est le premier mot comme ça qui vient en tête à l'esprit des gens lorsqu'on évoque l'électro et la musique électronique. Il y a quelques-uns des ancêtres du synthétiseur que vous présentez dans cette exposition, le telharmonium par exemple.
Ah oui, le telharmonium, c'est un instrument américain. Effectivement, c'est le premier qui apparaît dans notre frise historique à l'entrée de l'exposition. La présentation au public date de 1901. Et donc c'était un instrument assez électromécanique, mais qui prenait l'espace de deux étages d'un immeuble new-yorkais.
Donc, ah oui, quand même. Donc voilà, on a fait du progrès depuis. Oui.
Oui, il a pas été conservé. Et et c'était fait pour être que le son soit diffusé par ligne téléphonique. D'ores et déjà, vous voyez que c'était un instrument très novateur. Et l'idée, au fond, c'était que l'inventeur puisse aussi inviter ou des musiciens qui viennent jouer sur cette sorte d'instrument électromécanique et que les gens puissent écouter à travers leur téléphone un concert à distance, comme on l'aurait fait, comme on le fera rapidement plus tard à travers la radio.
Et puis il y a aussi plus tard le Synthia et le VCS3, donc une entreprise britannique.
Voilà, alors il y a beaucoup de jeunes constructeurs anglo-saxons dans les années 60, donc à partir de la fin des années 60, à partir de, on pourrait dire, de la révolution soit de 68 et du psychédélisme, qui conçoivent des synthétiseurs qui vont être peu à peu utilisés par des groupes justement psychédélique ou ce qu'on a appelé le rock planant dans les années 70. Mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de grands groupes pop de la fin des années 60 à San Francisco ou à Londres ont été fascinés par ces sonorités électroniques. Bon, Pink Floyd en a intégré dans son rock, mais même Simon & Garfunkel l'ont utilisé et quelques autres. Donc il y a eu un moment où c'est justement ces recherches, des studios de recherche dont on parlait tout à l'heure, qui viennent d'un cadre savant, pas du tout populaire, par des gens qui n'étaient pas du tout intéressés pour séduire le grand public, et bien malgré eux, ces recherches vont influencer des groupes pop qui vont devenir parfois plus novateurs eux-mêmes que l'étaient les studios.
Mais alors justement, est-ce qu'il y a une bascule? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une date à partir de laquelle cette musique savante, cette recherche musicale, la création de ces prototypes-là, a débouché sur une musique grand public?
Alors, vous avez plusieurs dates, mais 67-68, tout à l'heure, on a écouté donc la messe pour le temps présent avec Michel Colombier et Pierre Henry. Donc ça, c'est vraiment l'alliage d'un compositeur pop et d'un compositeur avant-gardiste. Et c'est un tube, on pourrait dire, c'est un morceau qui va marquer l'histoire. Et c'est une première étape. Vous avez tous ces groupes des années 70, cette musique qu'on l'on disait un peu cosmique ou planante, dont Jean-Michel Jarre pourrait être l'emblème, qui va connaître un énorme succès. Enfin, ça a été le plus gros vendeur de disques français à l'étranger, dans le monde, pendant de longues années. Et il est peut-être encore avec ses premiers albums. Et puis, vous avez deux autres révolutions populaires. Il y a les années 80 où ce sont les constructeurs japonais qui commencent à concevoir des machines qui sont vraiment accessibles aux jeunes groupes, notamment ceux qui ont vécu la révolution du punk. Et puis vous avez encore une autre révolution avec l'arrivée des logiciels et des ordinateurs domestiques qui va permettre une nouvelle fois une démocratisation de ces technologies. Le tout sans oublier le cinéma aussi, le cinéma grand public qui au cours de son histoire a parfois été un des premiers médias populaires à faire entendre la musique électronique à un grand public. D'abord par le cinéma de science-fiction hollywoodien, celui des années 50, 60, mais aussi on en retrouve des sons dans certains films de Hitchcock, par exemple, et puis plus tard, Orange Mécanique, par exemple, les films de Kubrick ou Blade Runner.
Cette émission est une rediffusion. The Man Machine, Kraftwerk en 1978 dans VMDN sur RFI avec Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk, à visiter jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris. Alors pourquoi justement est-ce que vous avez choisi ce groupe allemand, ce groupe de Düsseldorf, Kraftwerk, comme point de départ de cette exposition, en tout cas dans le titre? D'ailleurs, c'est peut-être plus dans le titre que d'ailleurs dans le parcours, que dans le parcours lui-même de l'exposition.
Oui, on a choisi deux groupes, Daft Punk et Kraftwerk, parce que ce sont des groupes aussi qui ont un univers tout autour de la musique. Ralf Hütter, qui est le leader de Kraftwerk, parle de son travail comme une œuvre d'art totale, une Gesamtkunstwerk, c'est un concept très allemand. Œuvre d'art totale, ça veut dire que c'est une carrière, une esthétique qui inclut la musique, les images, la scénographie, différentes disciplines, différentes formes d'art au service d'une vision. Ici, une vision, disons, un peu poétisé de notre monde technologique quotidien, non pas futuriste comme l'étaient parfois certains groupes des années 70 ou d'autres, mais il y a une poésie du quotidien qui s'exprime là-dedans. Et pourquoi Kraftwerk? Parce que c'est le groupe par lequel on peut dire tout a commencé. Ils fondent leur studio Kling Klang à Düsseldorf en 70. Ralf Hütter et Florian Schneider, voilà deux artistes allemands qui ont voulu eux aussi réinventer une musique après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après le nazisme en fait. Hein, il y a aussi cette volonté très très forte chez eux d'inventer une pop qui serait moderniste, tout simplement. Et puis à la fois chez eux il y a un aspect très pop, très mélodique, et puis une forme de radicalité et un travail sur la percussion, sur le rythme, sur la percussion, qui va avoir une influence fondamentale sur la musique noire américaine. On l'ignore, on l'oublie, on le méconnaît trop souvent, mais c'est sans doute le groupe, on va dire, européen, qui a eu la plus grande influence sur la musique noire américaine, qui a accueilli ces innovations d'une manière très enthousiaste.
Et l'univers de Kraftwerk, on peut le découvrir dans une pièce un petit peu à part, hein, dans l'exposition. Il faut chausser ses lunettes 3D à l'entrée, et puis on a un montage audiovisuel qui a été spécialement réalisé pour cette exposition.
Pas tout à fait spécialement réalisé, qui tourne parfois dans quelques très rares galeries. Ils ont une galerie d'art contemporain qui les représente aussi. C'est très important pour eux d'être intégrés dans un cadre artistique. Et vous avez une série d'une bonne dizaine de vidéos. C'est un long programme qui reprend un peu tout leur, ce qu'ils appellent The Catalogue. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est d'ailleurs leurs 8 albums, les 8 concepts sur lesquels ils ont travaillé entre 1973 et aujourd'hui, puisque c'est un groupe toujours en activité.
Et l'une des forces, l'un des intérêts majeurs de l'exposition, c'est justement que les artistes, Jean-Yves Leloup, et en particulier les artistes de musique électronique, mais pas seulement, ont largement participé à la scénographie et au parcours du visiteur.
Tout à fait, ça a été vraiment une très bonne nouvelle pour nous de voir Kraftwerk participer activement, venir à l'exposition, proposer de faire des concerts. On a discuté avec eux, tout comme avec le duo français Daft Punk, qui se sont vraiment tout à fait investis dans l'exposition pour créer une sorte d'installation à la fois un peu ludique, naïve et très très pop pour cette expo. Et puis vous avez d'autres personnages ou personnalités comme 1024 Architecture, qui sont les deux scénographes de l'exposition, mais qui sont aussi des artistes. Ils sont à la fois architectes, scénographes et codeurs informatiques et artistes multimédia. Et ils ont créé une installation très, très spectaculaire qui s'appelle Core, C-O-R-E, qui met en volume et en lumière la bande-son de l'exposition. Et puis vous avez aussi le célèbre DJ Laurent Garnier qui a créé 5h30 de bande-son, enfin qui sont mixés pour l'exposition aussi.
11 mix inédits.
Ouais, 11 mix inédits.
Et qui retrace un peu l'histoire, le parcours justement des musiques électroniques à travers le temps.
Oui, il y a 11 chapitres qui évoquent, alors ça peut être une époque un peu historique, enfin un moment historique, comme ce qu'on a appelé le second été de l'amour à la fin des années 80 en Angleterre, cette irruption, cette émergence de ces fêtes clandestines, de ces rave parties qui vont être combattues d'ailleurs par le pouvoir de Margaret Thatcher, mais qui font office vraiment de seconde révolution 10 ans après le punk, seconde révolution musicale et culturelle. Et puis vous avez aussi des mix dédiés à la production française ou allemande par exemple, qui sont à la fois dédié à des choses anciennes et beaucoup plus récentes. C'est l'un des credos de l'exposition, c'est à la fois de parler de ce qu'a été l'âge d'or des années 90 pour cette musique techno ou house, comme on l'appelle, et puis le second âge d'or, c'est maintenant.
Alors, un mot du parcours, justement, et de la scénographie de l'exposition, Jean-Yves Leloup, parce qu'on peut vraiment passer d'une pièce à l'autre, d'une ambiance à l'autre, d'une musique à l'autre. Aussi, il y a un casque qui nous est distribué à nos visiteurs au début, à l'entrée de l'exposition, et on peut le brancher, comme ça, de façon à vraiment s'immerger dans chacun des univers. Comment est-ce que vous avez conçu ce parcours, déjà? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Comment vous l'avez choisi, en accord avec les scénographes, bien sûr?
La première chose qu'on a voulu faire, c'est créer une bande-son commune pour tous, partagée, comme lorsqu'on irait dans un concert, un festival, ou dans une discothèque, un club, ou une rave party. Donc, partager ensemble la même musique, même si on peut justement se brancher avec son casque pour regarder certains contenus vidéo plus spécifiques. Mais voyez, cet aspect de partage de musique était important. Et puis après, pour éviter une exposition trop historique ou trop didactique, qui d'ailleurs, c'est pas un format qui est très adapté à l'exposition. Enfin, je préfère écrire un livre pour écrire l'histoire de la musique électronique là. L'idée, c'était de l'approcher par ses imaginaires ou ses codes et sa culture. Donc, essayer de déterminer des grandes esthétiques qui transcendent justement les genres, les courants et les époques et qui nous permettent ou qui permettront aux curieux comme aux spécialistes de mieux saisir au fond la philosophie ou l'essence d'une culture musicale.
Oui, parce qu'il y a la frise chronologique effectivement au début, mais le parcours du visiteur, lui, n'est pas forcément chronologique. Il peut le faire dans l'ordre chronologique, mais pas uniquement. Hein. Il peut déambuler un petit peu à sa guise.
Il reste une grande liberté de déambulation comme on l'a dans les fêtes ou cette esthétique première des... la scénographie première des rave parties des années 80 et 90 où il y a une grande liberté de circulation. Ça, c'était très important. Et vous savez, l'exposition, elle ressemble un peu à une vaste installation audiovisuelle au fond avec elle a un côté très séducteur, très coloré, très pop, très hypnotique, tout en offrant parfois des contenus plus spécifiques et plus profonds, bien sûr. Mais donc, on a discerné ces grands traits. Le premier, la question de l'innovation, par exemple. L'innovation, dans la première section de l'expo, c'est ça. Le regard tourné vers le futur et l'innovation. Donc, ça nous permet de rassembler différentes œuvres sur cette thématique-là. La deuxième, c'est le dance floor. Donc, l'hédonisme, la communion sur la piste de danse. Quelque chose de très important avec notamment beaucoup de portraits de danseurs. La troisième section, c'est mix et remix, c'est le travail des DJ. Et puis la quatrième, imaginaire et utopie, eh bien on parle d'aspects plus sociétaux et politiques, et puis aussi de quelques grandes esthétiques visuelles qui traversent cette culture musicale.
Alors il y a effectivement cette dimension esthétique qui est très présente dans l'exposition. En fait, on est vraiment sur les deux plans, c'est-à-dire il faut à la fois en avoir plein les oreilles et plein la vue. Ça, c'est déjà quelque chose qui est consubstantiel à la naissance et à l'évolution de la musique électronique.
Oui, alors, dans les rave parties, dans ces grandes fêtes, parfois clandestines, parfois pas, vous aviez un spectacle. Le spectacle est dans la salle. Il n'est pas toujours centré sur un artiste lui-même, mais plutôt à travers le travail de l'éclairage, je sais pas, des fumigènes, des interactions de la foule, et puis surtout dans des scénographies très particulières ou des lieux très particuliers que les adeptes de la house ou de la techno ou de ces fêtes qui battent leur plein, par exemple, en ce moment, dans la région parisienne, eh bien, sont tous à la recherche de lieux extraordinaires ou de lieux porteurs d'une histoire. Ça peut être des lieux très industriels, mais qui sont porteur d'une certaine poétique. Et donc ça, c'est très important de créer un lieu comme ça, dans lequel on peut écarquiller les yeux et les oreilles, si je puis dire. Donc il y a une poétique du lieu et de l'environnement qui était très importante pour nous d'essayer de recréer. Non pas d'imiter, mais en tout cas, ça nous a inspiré pour la scénographie.
Et Jean-Michel Jarre était aussi un des précurseurs hein, en la matière. Ces grands concerts géants que vous évoquez, d'ailleurs.
Mais oui, en fait, Jean-Michel Jarre, comme les avant-gardes qui l'ont précédé, ont tout de suite cherché à créer d'autres formes de concerts, parce que bon, la musique électronique, il n'y a pas vraiment de geste instrumental aussi beau, humain, et que pourrait l'être celui d'un violoniste, ou d'un contrebassiste, ou d'un pianiste, bien sûr. Donc, il a fallu créer des sortes de, soit des spectacles, ou des concerts avec une immersion sonore très particulière, ou aussi des spectacles où le visuel et la musique puissent dialoguer entre eux de manière beaucoup plus forte que lorsque vous avez un chanteur de rock ou un rappeur sur scène.
Alors Jean-Michel Jarre, il est allé où par exemple ?
Eh bien, son concert, son premier grand concert à Place de la Concorde, c'était en 78, si je me souviens bien, avec près d'un million de personnes qui se sont rassemblées. C'était tout à fait inattendu. Ça suivait l'énorme succès de Equinox et Oxygène et Equinox. Et là-dessus, il a travaillé à l'époque avec un collectif d'artistes, avec des projections sur les bâtiments. Donc l'idée, c'était de transformer aussi l'architecture et le lieu en un lieu un peu magique ou poétique. Donc cette idée de scénographie, disons, nouvelle, elle était aussi présente chez Kraftwerk. Elle est aussi très présente depuis une dizaine d'années dans la scène électronique. Et d'ailleurs, nos scénographes, les 1024 architectures, se sont fait remarquer en 2007 avec les scénographies de concerts qu'ils ont réalisées pour certains musiciens français.
Et en déambulant entre les structures qui composent le parcours de l'exposition, Jean-Yves Leloup, on se retrouve plongé aussi au cœur de deux villes américaines qui sont un peu comme les secondes mères de la musique électronique, hein, Chicago et Détroit.
Alors Chicago, commençons par Chicago puisque c'est le lieu de naissance de la house music. Donc cette musique qui s'appelle house, semble-t-il, en référence à une boîte de nuit qui s'appelait le warehouse, donc l'entrepôt désaffecté, on pourrait dire comme ça, ou l'entrepôt. Donc c'est une musique qui à la fois devait encore beaucoup à la disco qui avait disparu quelques années auparavant, qui continuait à survivre un peu chez certains DJ, mais sous une forme un peu plus radicale, plus minimaliste, plus percutante et faite avec des moyens de fortune aussi. Ce sont de très jeunes musiciens qui ont réinventé la musique d'hier de manière un peu naïve mais totalement géniale, on pourrait dire.
Et puis donc Détroit.
Alors Détroit, oui.
Voilà, donc le Chicago, berceau de la techno musique cette fois-ci.
Oui, Chicago, c'est plutôt la house, donc vers la moitié des années 80, avec les premiers tubes qui arrivent en 86. Et puis Détroit, qui est une ville qui est vraiment pas très loin, c'est à quelques centaines de kilomètres aux États-Unis, autant dire c'est très très peu voilà. De Chicago et Détroit.
Une grande ville de l'industrie automobile.
Voilà, c'est ça qui connaît une crise depuis déjà longtemps. Et là, vous avez une génération de musiciens noirs américains qui s'inspirent à la fois du funk, de la musique noire américaine. Ils sont en total, pour eux, ils sont les héritiers directs de cette musique noire américaine. Mais ce sont aussi des gens qui écoutent énormément ce qui vient d'Europe. Un groupe comme Kraftwerk, justement, mais aussi ce qu'on appelait la New Wave britannique, New Order ou Depeche Mode, ou ce qu'on appelait aussi l'Italo Disco. Et donc des jeunes gens qui ont envie d'en savoir un peu plus et de sortir parfois de l'ornière de leur propre culture, auquel ils vouent vraiment un vrai culte, mais qui ont voulu marier en fait des cultures un peu opposées, donc l'héritage nord-américain et la musique européenne.
Mais est-ce qu'on peut dire que la musique électronique est d'une certaine manière fille de la musique noire ?
Oui, elle est fille de la musique noire, mais ça serait faux de dire que c'est une musique blanche ou noire, cette dance music électronique qui triomphe aujourd'hui, qu'on appelle communément électro, d'où le titre de cette expo, c'est c'est une musique qui est née d'une rencontre entre les deux continents, entre différentes cultures. Mais vous voyez un groupe comme Kraftwerk, par exemple, allemand, donc ils ont une influence fondamentale sur les musiciens noirs américains, mais leurs influences, c'est aussi le rock, c'est la soul music, c'est la musique noire américaine, c'est les Beach Boys aussi, donc avec des racines qui sont, elles, noires américaines. Donc c'est un dialogue assez beau et, je dirais, assez équilibré, mais reste que il y a eu une détonation, on pourrait dire, à Chicago, à Détroit, mais aussi à New York aussi pour la house.
Alors New York, justement, oui. C'est là le lieu de naissance du dance floor.
La culture moderne, la discothèque moderne, ça c'est quelques années plus tôt, c'est avec la disco, oui, c'est dans les années 70. Alors, des boîtes de nuit novatrices, il y en a eu en Europe aussi, notamment en Italie à la fin des années 60, avec des architectes absolument incroyables qui ont inventé de nouvelles formes de scénographie. Il y a des choses qui existaient comme ça en Europe, mais à New York, il y a autre chose, parce qu'il y a la culture du DJ qui vient se rajouter à ça. Et puis aussi une culture communautaire, gay, noir, latino, une culture de minorité qui vont se, au fond, s'agréger et célébrer leur propre esthétique ou leur propre culture, tout simplement, sur la piste de danse. Et c'est de cette manière aussi que les pistes de danse ou les clubs deviennent politiques en elles-mêmes.
Dirait des nouvelles. Sur RFI.
Cette émission est une rediffusion. Acid FL par le trio Choice constitué des Français Laurent Garnier, Chaz et Ludovic Navarre sur RFI et l'exposition Electro que vous avez montée. Jean-Yves Leloup nous fait plonger dans les rave parties, dans toute la mythologie qui entoure les dance floors. Acid, on pense forcément à la drogue, aux substances illicites ou hallucinogènes. Vous insistez pas trop là-dessus finalement dans l'exposition. C'est un choix délibéré ?
Non, c'est naturellement présent dans certaines photographies. On a beaucoup de portraits de danseurs, de rêveurs, dans des états d'euphorie ou d'abandon, d'énergie ou de fatigue. On le souligne parfois, c'était un élément qui a été parfois déclencheur, qui a fait passer des gens qui venaient d'une culture rock ou hip-hop dans une autre dimension, on pourrait dire, au même titre que le psychédélisme. Mais vous voyez, on ne peut pas expliquer le psychédélisme seulement par l'effet du LSD. C'est un des éléments effectivement clé, comme si on peut aussi évoquer d'autres cultures musicales populaires à travers de différents types de drogues qui peuvent exister mais qui ne sont jamais les seuls éléments déclencheurs, mais ça a eu effectivement son rôle. Et nous, au fond, l'exposition, on essaie d'évoquer les grandes questions qui traversent cette musique, enfin les grandes esthétiques, à travers le regard des artistes, surtout qu'ils soient photographes, vidéastes, plasticiens, sculpteurs, voilà, artistes numériques. Et on pourrait dire que, en tout cas, cette exposition, elle possède quelque chose d'un peu acide peut-être, un peu lysergique comme on dirait, ou hypnotique. On est dans un espèce de trip, mais qui est un trip qui est procuré par la puissance des œuvres d'art qui sont rassemblées dans cette exposition. Il y a un véritable impact sensoriel qu'on a voulu pour cette exposition et qui, semble-t-il, fonctionne bien parce que l'expo est bien reçue, il y a un grand public. Et on entre tout de suite dans un espèce d'univers de sensations et très sensorialisé parce que, au fond, l'usage de certaines drogues récréatives n'ont fait que accentuer des choses qui étaient déjà présentes dans la scénographie, dans la musique.
Alors, les photos qu'il y a dans l'exposition nous dévoilent les uns après les autres les codes, les us et coutumes, les vêtements, les postures corporelles qui se sont succédées sur les dance floors. Il y a en particulier le travail de Jacob Christ, qui était à la fois rêveur lui-même, donc praticien, si j'ose dire,
toujours,
du dance floor,
oui.
Qui est toujours, et photographe également. Et puis, il y a aussi Xavier Veillant, par exemple. Je ne sais pas si lui adore les...
Ah oui, c'est un très bon
sur les dance floors, oui,
bah oui
aussi.
Et on a des artistes contemporains comme Xavier Veillant qui sont des artistes très prestigieux, comme peut-être aussi Andreas Gursky qui ouvre l'exposition. Ce sont des artistes contemporains qui ont parfois démarré leur carrière à la fin des années 80, début 90, pour qui la musique électronique a été aussi la bande-son d'une époque, de leur génération, et qui, leur travail n'est pas dédié à illustrer la musique, mais en fait parfois l'écho, au même titre que le rock ou le jazz, a pu être la bande-son d'autres générations d'artistes, de plasticiens et avec lesquels on peut parfois faire des liens.
Mais alors justement, Jean-Yves Leloup, est-ce qu'on peut dire que l'électro s'est toujours comporté au diapason de l'évolution de la société ?
Écoutez, on danse depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, mais c'est sûr que la danse, les fêtes, elles prennent des formes différentes selon effectivement le contexte social et politique. Aujourd'hui, on n'a jamais autant dansé, il n'y a jamais autant de festivals, de fêtes techno ou électroniques en France par exemple, mais c'est le cas dans une grande partie de l'Europe, c'est le cas aussi en Amérique du Sud par exemple ou sur d'autres continents. On n'a jamais autant dansé. Et les fêtes reprennent un discours assez politique en ce moment. En tout cas, il y a à travers la communauté, enfin les communautés qui se rassemblent pour organiser ces fêtes-là, il y a
notamment discours... autour des questions de genre.
Oui, de genre, de liberté, de mœurs, mais aussi on peut voir un rapport avec cette atmosphère un petit peu de que l'on nomme collapsologie aujourd'hui, cette crainte de l'effondrement d'un monde. Et au fond, il y a sans doute un besoin plus fort encore de se fédérer autour de la piste de danse. Mais vous voyez, les fêtes techno ou même d'autres fêtes ont une part de rituel, ont une part aussi de au-delà de l'hédonisme, au-delà de la volonté de faire la fête, de volonté de communion laïque autour d'un son ou en tout cas ou dont la musique serait la bande son.
Électro-culture ou contre-culture, Jean-Yves Leloup ?
Alors, je pense que c'est une culture tout simplement parce qu'elle a ses ramifications un peu partout. Puis aujourd'hui, elle est présente, si vous écoutez de la musique électronique, même si elle n'est pas dansante, elle est présente au cinéma hollywoodien, dans le cinéma indépendant, dans les séries, dans les habillages des radios, et même sur celle-ci, je me semble. Donc elle est un peu partout, elle s'est infiltrée partout. Et puis vous avez aussi une génération de quadragénaires ou de quinquagénaires qui accèdent aujourd'hui aux responsabilités des grandes institutions pour qui cette musique a été la musique de leur jeunesse. Voilà, je connais certains députés qui adorent cette musique-là, pour qui ils n'ont plus, il n'y a pas d'opposition particulière. Contre-culture, c'est quelque chose qui est vraiment lié au rock, à mon avis, des années 60 et 70, et qui est une notion, franchement, qui ne convient plus vraiment à notre époque.
Donc, culture, dites-vous, Jean-Yves Leloup, culture présente sur l'ensemble des continents de la planète. On parlait d'Amérique latine à l'instant, mais en Afrique, parce que
oui.
RFI est très très écouté là-bas, évidemment.
Oui, c'est une musique.
Il y a une vraie culture techno en Afrique.
Oui,
culture
alors
électro en Afrique.
Alors c'est la culture, on va dire, c'est la culture électronique, des logiciels et la culture des DJ qui effectivement va dialoguer avec différentes cultures, différents pays, différentes scènes. C'est très très varié. Donc, on a parlé à une époque de l'électro Shaabi en Égypte, alors qui renoue aussi avec l'art du rap ou du MC. Et il y a une scène qui est née aussi après la révolution en Tunisie, qui était plus proche de ce qui se pratique en Europe et en France, mais qui commence aussi à redécouvrir son héritage. Vous avez une scène plus ancienne en Angola avec ce qu'on a appelé le Kuduro, par exemple. Alors, le Kuduro, maintenant, c'est un terme très générique, mais il y a une scène absolument extraordinaire qui est née au cours des années 2000 et qui a été très créative et qui était une influence en partie de la house américaine avec aussi les influences plus ancestrales, des pratiques des percussions en Angola, en Afrique du Sud. Alors là, c'est riche depuis plus longtemps encore. Un des derniers genres qui s'appelait le Kom, GQOM, donc quelque chose de très simple, très percussif, fait par des très jeunes gens avec des logiciels de fortune et une musique qui n'a pas de vrai marché, qui circule de manière très libre en MP3 par exemple. Et ce qui est plus développé et industrialisé, on pourrait dire, c'est à mon avis en Amérique du Sud, où là il y a des structures un peu plus fortes, des labels. Il y a de très très belles choses qui se sont faites en Argentine notamment, mais aussi là je pense à la Colombie. Tout ça est encore parfois très neuf, mais il y a un artiste que j'aime beaucoup et qui vient de sortir un album qui s'appelle Nicolas Cruz, un Colombien, et qui tourne en ce moment en Europe, et c'est absolument magnifique. Donc, et on me parle aussi de l'Asie, pour laquelle où je n'ai pas encore été, mais je sais que ces soirées-là, les DJs sont naturellement présents. Donc c'est une musique qui s'est mondialisée, ou qui se mondialise encore aujourd'hui.
Cette émission est une rediffusion. Take Me Out, Hélène Alien, une des nombreux DJ mis en lumière dans votre exposition à la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris plus précisément, Jean-Yves Leloup, une berlinoise, hein, Hélène Alien. Berlin aujourd'hui c'est la nouvelle capitale de l'électro.
Oui, on peut le dire, c'est une sorte de capitale réelle et symbolique parce que elle attire la jeunesse du monde entier, parce qu'elle concentre dans sa population un très grand nombre de musiciens, d'artistes, de DJ, de gens aussi qui viennent passer quelques années dans cette ville à la fois festive, européenne, mondialisée, parfois aussi un peu décadente à travers ses fêtes et son atmosphère. Et c'est vrai qu'elle concentre plein de labels, plein d'artistes et beaucoup de clubs. Même si ça reste une ville pauvre où les DJs sont là-bas, sont mal payés, elle rayonne sur l'ensemble du monde et elle est devenue cette capitale symbolique et internationale de cette scène techno. Ça a commencé juste après la chute du mur en 89, bien évidemment, avec de nouveaux lieux qui se sont offerts aux jeunes organisateurs de soirées, des nouveaux lieux un peu désaffectés. Le célèbre club Trésor a pris son nom parce qu'ils se sont installés dans les anciens coffres-forts d'une banque, près de la poste d'Hammerplatz à l'époque. Et vous avez des lieux absolument incroyables à Berlin, une atmosphère très particulière. Et toute cette atmosphère et cette esthétique s'en ressent beaucoup aujourd'hui en France. Il y a des soirées en France, à Paris par exemple, on sent bien qu'elles sont liées à cet idéal berlinois. Des fêtes à Marseille aussi, encore plus récemment. Et puis dans la littérature française, on parle beaucoup de la ville de Berlin. On en a rassemblé quelques textes dans le très beau catalogue qu'on a fait chez Textuel pour la sortie de l'expo. Donc il y a un imaginaire qui à la fois c'est une ville qui est réellement dont le cœur bat au rythme de la techno, mais qui a une influence fondamentale sur d'autres pays et d'autres musiciens.
Alors Hélène Alien, qui est une femme, il y a beaucoup de femmes DJ.
Il y en a de plus en plus. Elles étaient un petit peu moins nombreuses, ça il faut le dire, dans les années 90, sur scène comme dans la foule aussi. Les premières grandes rêves étaient assez masculines, il faut le dire. Il y a eu une première génération de DJ, un peu moins de musiciennes dans les années 90, mais là, on peut dire depuis 4-5 ans, ça commence à vraiment se démocratiser. On a quelques stars, des platines féminines, notamment il y a de jeunes femmes belges, par exemple, qui remplissent les clubs ou les festivals aujourd'hui. Il y a vraiment une prise en main, une conscience chez toutes de jeunes femmes d'une possibilité de pouvoir s'exprimer dans cette musique-là, ce qui n'était pas évident dans les années 90 ou même au début des années 2000, et puis ça va de pair aussi avec les questionnements qui traverse l'ensemble de la société.
Alors vous le dites hein, dans le catalogue que vous publiez effectivement chez Textuel, Jean-Yves Leloup, le métier et la pratique du DJ demeurent encore très mystérieux pour une grande partie du public. Vous posez la question d'ailleurs à quelques DJ célèbres, à Hélène Alien justement, mais aussi à AZF, Bambounou ou Jeff Mills, l'américain. Mixer, c'est quoi? Alors je vous retourne la question, Jean-Yves Leloup, c'est quoi mixer?
Mixer, c'est faire figure de passeur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un musicien, un compositeur ou un créateur à proprement parler. Vous prenez des disques ou des fichiers, donc de la musique préexistante, et vous allez l'assembler et la mélanger, imaginer une suite logique entre différents morceaux, donc vous jouez un morceau, et souvent en fait la base c'est que chaque morceau a un tempo, a un rythme, et on va ralentir ou accélérer un disque à la même vitesse que le disque précédent pour pouvoir le mixer, le fondre. Donc en fait on arrive à fondre à travers le tempo et des mesures à quatre temps un disque qui suit à celui qui le précède et créer comme ça une sorte de continuité. Et quand vous êtes DJ, vous êtes libre de ne jouer qu'une minute ou 30 secondes ou 4 minutes d'un morceau. Vous pouvez enlever les basses, vous voulez filtrer telle ou telle chose. Vous pouvez agir sur la musique, donc vous sculptez ou modelez la musique d'autres musiciens. Je sais pas si j'étais assez clair.
C'est très très clair. Alors on parle toujours de la French Touch. Est-ce qu'il y a vraiment une façon française de mixer ou c'est un mythe?
Non, il n'y a pas une façon française de mixer. Il y a une génération French Touch qui a commencé entre 95-2000, ça a été sa première période. On a parlé de French Touch pour parler de musiciens français qui réussissaient à l'étranger et qui étaient aussi accueillis à bras ouverts par la presse anglo-saxonne qui, dans les années 90, faisait vraiment la pluie et le beau temps sur la scène internationale. Et donc, il y avait la French Touch, vous savez, d'un point de vue musical ou esthétique, elle puisait beaucoup dans la culture noire américaine, dans le funk, le disco et la soul, d'un côté. Et puis de l'autre, dans des choses un peu plus stylisées, parfois plus proches de la musique de film, dont la musique de R, le groupe, le duo français R est assez emblématique.
It facts, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it.
Daft Punk, évidemment, sur RFI, c'est autour de ce titre devenu culte hein, que les deux artistes casqués ont conçu une installation pour votre exposition. Jean-Yves Leloup, puisque il est question justement de musique, de technologie, d'idées, de futur. Il y a toujours eu quand même une optique futuriste hein, depuis le début de l'électro, pas uniquement, mais en particulier, comment est-ce que vous voyez son évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà en germe les sons et les rythmes de l'électro de demain?
Très certainement, mais c'est très difficile de lire la musique aujourd'hui parce que vous avez un petit peu moins de grands courants qui se succèdent les uns aux autres, comment on a pu la voir dans l'histoire de la musique pop, de Chuck Berry jusqu'à la techno. En fait, on a suivi une sorte d'évolution avec l'apparition de grands genres comme le funk, la disco, la new wave, le punk, qui s'était assez bien calibré. La musique, on arrivait encore à la lire. À partir des années 2000, vous savez, avec l'émergence de l'Internet, cet âge de l'accès, Un jeune musicien, il est parfois, première chose, une jeune musicienne écrasée un peu par le passé auquel il a accès, mais on peut s'inspirer d'influences géographiques lointaines ou temporelles très lointaines, et ça devient très difficile de prévoir le futur de la musique. C'est un peu un effet, c'est la théorie du chaos qui prévaut à mon avis, donc bien malin sera celui qui saura annoncer notre futur musical.
Merci beaucoup Jean-Yves Leloup. La fête est finie, hein, comme il est écrit sur le néon imaginé par Claude Lévesque et qu'on trouve à la sortie de l'exposition.
Et pour mieux renaître.
Pour mieux renaître, naturellement, l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk. C'est donc jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris et le catalogue est disponible en coédition avec la Philharmonie et Textuel. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles.
Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
l'empreinte d'une idée. Alors, avant le travail même d'impression, en fait, je viens déposer mon papier dans de l'eau claire. Je suis Lucille Van Stavel, graveuse taille doucière. Le métier de graveur taille-doucier consiste à graver une plaque de métal en creux de manière à restituer le contenu de l'image grâce à l'impression taille-douce sur du papier. Alors là, en fait, je viens juste déposer ma feuille entre un buvard et je viens juste presser en fait ce buvard à l'aide d'un rouleau pour justement faire sortir l'excès d'eau. Alors ici, on a l'atelier de gravure Beau-Albirc à Paris. Je vais commencer à réaliser un dessin gravé sur une plaque de cuivre. J'applique un vernis protecteur en fait. On peut graver à partir d'outils tranchants directement dans le cuivre ou alors à l'aide de mordants chimiques. Donc c'est ce qu'on appelle la taille indirecte. C'est un acide additionné d'eau qui va permettre indirectement de venir creuser mon cuivre. Là, mon dessin est tracé à la pointe, du coup, donc on voit bien le cuivre en fait qui apparaît dessous le vernis protecteur. Il est maintenant temps pour moi, en tout cas, de venir plonger ma plaque dans le bain d'acide pendant 40 minutes à peu près, de manière à ce que l'acide vienne vraiment creuser la taille. Donc là, je viens juste rincer à l'eau claire en fait ma plaque qui a été mise dans l'acide. Et effectivement, on peut commencer à sentir avec le doigt en fait la profondeur de la taille. Donc là, à l'aide de solvant, je vais venir dévernir ma plaque pour découvrir justement la gravure. Voir apparaître petit à petit l'image. Alors là, je suis en train de préparer mon encre taille douce. C'est une encre grasse. Donc l'ancrage se fait à l'aide d'un rouleau. Un rouleau de caoutchouc qui est emmanché sur une structure en bois. Donc en fait, on va venir vraiment garnir l'ensemble des tailles de manière très très généreuse. Alors là, je viens découper un morceau de tarlatane. Alors c'est une mousseline amidonnée qui est relativement raide en fait. Et c'est justement ce morceau de textile qu'on venait insérer sous les robes des dames à l'époque pour qu'elles tiennent en volume. Et cette mousseline amidonnée, je vais venir la casser à la main, la frotter. C'est pour que la fibre soit plus souple en définitive et pour qu'on puisse venir essuyer la plaque de cuivre, en fait. Je vais venir essuyer avec la paume de ma main, nue, de manière à répartir, en fait, ce léger voile d'encre qui reste sur ma surface de cuivre. On vient appuyer certaines zones gravées plus que d'autres en fonction de ce qu'on veut restituer sur le papier. Chaque paume imprimera d'une manière différente le sujet gravé. Une fois la plaque ancrée, je vais venir déposer ma plaque de cuivre sur un plateau de presse. Et ensuite, je vais déposer sur cette gravure ma feuille de papier humide. Donc là, il faut savoir qu'il y a une très très grosse pression. C'est l'équivalent d'à peu près une tonne, voire plus d'une tonne. Mon impression est réalisée et là, je suis plutôt satisfaite. Tout ce savoir-faire permet vraiment d'avoir une définition de l'image assez belle. Et surtout, l'image apparaît en relief, gaufrée sur mon papier.
Aujourd'hui, j'étais
l'empreinte d'une idée
sur RFI.
On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.